disait Antoine de Saint-Exupéry, la nuit, la raison dort, et simplement les choses sont. Celles qui importent véritablement reprennent leur forme, survivent aux destructions des analyses du jour. L'homme renoue ses morceaux et redevient arbre calme. Nous allons essayer d'être, dans l'heure qui vient, cet arbre calme. Mais la dernière émission, nous avons évoqué Francis Ricard, qui a fait cette belle lettre à Arthur Rimbaud, dont nous reparlerons. Arthur Rimbaud qui, lui, avait écrit à sa mère en 1881, depuis le Harare, ceci. « Enfin, dit-il, puissions-nous jouir de quelques années de vrai repos dans cette vie. Et heureusement que cette vie est la seule, et que cela est évident, puisqu'on ne peut s'imaginer une autre vie avec un ennui plus grand que celle-ci. » Alors, cet ennui, on va essayer de ne pas le ressentir et de continuer dans notre aventure de poésie. Et toujours Saint-Exupéry qui disait que l'aventure repose sur la richesse des liens qu'elle établit, des problèmes qu'elle pose, des créations qu'elle provoque. Il ne suffit pas pour transformer en aventure le simple jeu de pile ou face, d'engager sur lui la vie et la mort, la guerre, disait Antoine de Saint-Exupéry, n'est pas une aventure, la guerre est une maladie comme le typhus. Et sur les circonstances et sur ce que nous sommes profondément, et c'est vrai pour tout créateur et tout poète, il disait ceci, Antoine de Saint-Exupéry, aucune circonstance ne réveille en nous un étranger dont nous n'aurions rien soupçonné. Vivre, c'est naître lentement. Il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes faites. Une illumination soudaine semble parfois faire bifurquer une destinée, mais l'illumination n'est que la vision soudaine par l'esprit d'une route lentement préparée. J'ai appris lentement la grammaire, on m'a exercé à la syntaxe, on a éveillé mes sentiments, et voilà brusquement qu'un poème me frappe au cœur. Cette illumination et ce poème qui frappe au cœur, nous allons essayer de vous les faire entendre par les poètes dont nous allons parler tout à l'heure. Mais au préalable, je voudrais rappeler, surtout pour les Toulousains, les gens qui habitent dans notre région, que le samedi 19 novembre se tiendront deux colloques, en définitive. Alors, deux colloques qui... C'est une circonstance malheureuse que ces colloques aient lieu le même jour, parce que le premier colloque sera à l'hôtel d'Assesa, sur le thème des jeux floraux et la culture occitane. Nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, d'en parler plus largement avec Philippe Dazébrun, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux. Mais le même jour, samedi 19 novembre, entre 13h30 et 18h30, à l'Institut catholique de Toulouse, 31 rue de la Fonderie, dans la salle Toulouse, il y aura des rencontres dans le cadre de Convivientia, un nouvel art de vivre ensemble, la laïcité et la foi, la spiritualité dans notre société. Alors, de quoi s'agira-t-il? Il y aura comme thème, d'abord, qu'est-ce que la convivencia? C'est cet art de vivre ensemble dans le respect de l'autre. C'est l'essence même de notre civilisation occitane qui se disait parage au Moyen Âge. C'est dans cet esprit d'altérité et d'égalité que la maison de l'Occitanie, l'ensemble de la convergence occitane, l'ensemble des associations de culture occitane vous invite dans le cadre d'un programme riche et ouvert où l'art et les idées s'échangeront en toute liberté et sérénité dans le respect des uns et des autres. Alors au programme il y aura la spiritualité et la laïcité, la spiritualité et la femme, la spiritualité et les sciences et l'art, le devenir de la spiritualité et de la convivencia au XXIe siècle, Et comme orateur, nous aurons Tariq Abournour, qui viendra de Paris, qui est un théologien, mais également un imam. Jean-Marc Echen, qui est l'évêque de Panimiers, de Mirepoix et du Couseran, qui a officié dans cette cérémonie à Montségur, il y a peu de temps, pour demander de repentir devant ce qui s'était passé pour les Cathares. Il y a Gabriel Agaï qui viendra de Jérusalem et qui est un rabbin et codicologue qui est diplômé en linguistique sémitique et qui parlera donc essentiellement du devenir de la spiritualité et de la convivence au XXIe siècle. Jean-Jacques Rouchy, qui est un chanoine, qui est le délégué épiscopal chargé du pôle de service foi et dialogue à Toulouse. Et puis Inès Safi, qui viendra de Paris, qui est spécialiste en physique quantique, qui mène en parallèle des recherches sur le dialogue entre science et foi. Et puis notre grand ami, conférencier, poète, écrivain, Alem Sure Garcia, qui viendra lui de Toulouse, et qui est le penseur de la convivience. Voilà. Et tout ceci sera agrémenté des artistes, Muriel Badbi-Castel, qui est soprano, qui est bien connu, qui est la voix du métro d'ailleurs pour les Toulousains, qui est Lagda Ranou, qui jouera du luth oriental, qui est soprano, et des polyphonies occitanes, que l'on appelle les mâles au cœur de Toulouse. Et puis il y aura des chants soufis avec Nazamat. Voilà le programme donc de ce samedi 19 novembre de 13h30 à 18h30 à la salle Toulouse. Vous avez l'ensemble de ce programme sur notre site les-poètes.fr, également l'adresse mail où vous pouvez vous inscrire à ce colloque, puisqu'il vaut mieux peut-être par précaution le faire. Voilà, donc pour l'annonce. Alors, je vais parler des nouveaux éditeurs, dont il faut dire, alors, quand il y a des gens qui commencent et qui éditent de la poésie, surtout avec cette qualité-là, il faut en parler. Alors, il s'agit des éditions Ad Solem, donc Ad Solem Poésie, qui ont fait paraître trois recueils dont je vais vous parler et vous lire des extraits. Alors, le premier, il s'agit d'Anne Goyen. Le titre est « Paroles données » avec une préface de Gérard Beauchollier. Une quête exigeante et inquiète attise la flamme du poète à mal de ciel, clair et sombre à la fois comme ces beaux arbres que le livre précédent de Anne Goyen, « Arbre soyez célébré ». Quelque chose de ce que certains écrits spirituels appellent une âme avancée résonne dans ce recueil. Une âme touchée par le souffle d'éternité qui fait entendre dans ses pages la parole délivrée de son propre souffle en écho-parole qui est un « Amen », un « Oui » d'accueil et d'amour. Le « Oui » d'Anne Goyen exprime sa confiance, mais aussi s'épanouit dans une espèce de libération. Tout ce qui pouvait alourdir l'âme ou l'encombrer a été écarté. La place est faite. Tout entière, elle s'offre à la visite de l'hôte, au visiteur qui ne peut s'installer que dans un parfait berceau de silence. Alors, après avoir enseigné les lettres classiques, Anne Goyen partage aujourd'hui sa vie entre la poésie et la musique. Les arbres de l'Île-de-France sont pour elle l'axe privilégié de sa contemplation. Alors, je voulais lire des extraits d'Anne Goyen, « Paroles données », peut-être des extraits également de la préface de Gérard Beauchollier. C'est donc aux éditions Ad Solem édition. Il y a 96 pages et ça coûte 19 euros. C'est un très beau livre, très bien présenté, très bien imprimé, très bien mis en page. Vraiment un livre très très agréable. Alors, voici ce que dit Gérard Bouchoulier sur le oui d'Anne Goyen. Il y a, dit-il, dans ce livre d'Anne Goyen, et d'abord dans son titre même, hein, le titre « parole donnée au pluriel », une véritable méditation sur la nature et le pouvoir du langage poétique. Ce langage ne résonne que dans le silence. Il aspire à devenir chant, langue du ciel, mais ne peut le faire qu'en lettres de terre, car le poète, plus qu'aucun autre en ce monde, vit et ressent dans ses intimes profondeurs notre condition terrestre. Parviendra-t-il jamais au cristal d'un langage de source ? Anne Goyen nous entraîne des profondeurs jusqu'à la source, avec un souci de vérité dont les accents nous frappent et nous émeuvent. Il la cite. Feu vivant né du cœur, si tes mots étaient vrais, ils brûleraient la page. C'est une quête exigeante et inquiète que la foi du poète attise de sa flamme en mal de ciel, clair et sombre à la fois, comme ces beaux arbres que le livre précédent, Arbres, soyez, célébrés, ils sont tout à l'image de l'homme enraciné dans sa terre et sa chair, capable, pourvu qu'un souffle vienne le traverser, de s'élever vers le plus haut et le plus pur du jour. N'est-ce pas être ce que certains écrits spirituels appellent une âme avancée ? Cette âme, touchée par le souffle d'éternité, fait entendre dans ses pages la parole délivrée par son propre souffle en écho, et cette parole est un « Amen » ou un « Oui » d'accueil et d'amour. Le silence de silence en parole. Gaieté de futée en clairière, la grâce fugitive, dont la clarté palpite au plus obscur de la feuillée. À travers la forêt des mots, être toujours en quête de l'oiseau du silence. Tes mots trouveront-ils en toi leur vrai silence, un espace d'accueil où se perdre sans perdre sens? Trouveront-ils hors de mesure cet amour dont on peut mourir sans mourir? Tes mots seront-ils ceux de la guérison, baume venu d'un souffle plus vivant que ton souffle? Laissez sourdre en amont des mots le silence du désirant. Du silence à la parole, comment renaître neuf ensemble? Vienne le temps d'écouter la détresse dans la nuit, où s'abîment les mots, oiseaux blessés par nos flèches de mort, vienne le temps de libérer sous le sable et la cendre le chant rebelle qui veut monter jusqu'aux étoiles. Un poème dédié à Gérard Arseguel. Mon chant provisoire soupire ou murmure pour conjurer le péril des jours et faire obole à l'univers. Comme au sein des grands bois des animaux se croisent, intimes étrangers, partageant de secrètes peurs ou d'allègres élans, nos visages multiples se parlent dans la nuit, nous devinons leurs lointaines histoires, lambeaux de langues oubliées. Que de paroles obscures, hors de l'abîme du sommeil, cherche ton cœur pour s'y muer en germes de lumière, nous rêler du sang de la vie jusqu'à la floraison. En réponse à nos profanations, nos faux-semblants, le lumineux sourire de la beauté, sa secrète brûlure qui réveille dans nos silences une flamme en mal de ciel. Entre nuit et aube amère, enterreuse veille attendre pour la brûlante blessure les eaux de la résurgence. Ne saurions-nous tout près de choir si nous nous retenions à chaque instant au bord des précipices la main divine. Veuille moins que trace le cheminement obscur qui ouvre ton espace vers l'autre. Voilà. Donc, avec ces textes d'Anne Goyen, paroles données, on est de nouveau dans cet esprit de convivience, pardon, si cher à notre culture occitane. Et puis, toujours dans ces éditions Ad Solem, de Gérard Beauchollier, celui qui avait fait la préface tout à l'heure, Gérard Beauchollier, donc poète bien connu, qui publie là « Nuit », c'est un ouvrage de 80 pages, il coûte également 19 euros. Gérard Beauchollier, c'est le fondateur de la revue Arpa, hein, pour ceux qui connaissent, son dernier recueil « Psaume de l'espérance » avait paru aux éditions Ad Solem en 2012, a été couronné par le prix de poésie François Copé de l'Académie française. Alors, après deux recueils psalmiques dans les psaumes du bel amour et psaumes de l'espérance, Gérard Beauchollier découvre d'ennui ce qui constitue l'horizon poétique en même temps que spirituel de son écriture. Pourquoi nuit? Parce que la vraie présence se donne dans l'absence, dans le retrait qui appelle la parole et la laisse comme suspendue devant ce qui s'est évanoui à peine donné, à peine nommé, nuit. Parce que c'est à travers l'interstice de nos blessures qu'entre le consolateur. Promesse de toutes nos résurrections, gage de toute parole vraie. On a écouté « Nuit », donc, de Gérard Beauchollier, aux éditions Ad Solem. Nuit d'Emmaüs. Il y a une citation de Luc. « Reste avec nous, disait-il, le soir vient, et le jour baisse déjà. » Noire est l'auberge contre le ciel, insecte tapis au bord de la route. Insecte oublié serrant ses élytres sur une rancune de terre et de pierre. La vieille montagne, comme un point géant coupé dans la suie, le grand voile pend, paupières arrachées, et le néant siffle dans l'horrible orbite. Silence enfoncé dans l'eau du fossé, lourde la nouvelle de sciure et de plomb, prostré sans comprendre, sans pouvoir répondre au gel qui s'annonce aussi des ténèbres. La route, ces guenilles de poussière et ces touffeurs de craie, la verroterie des siècles roulant sous nos pieds, dupeurs et dupes, même hochés et même gousses de pitié. Noria des jours, où est la source que nous rêvions, pauvres fous, de retenir de nos mains frêles. Nous revenons rocher au cœur, tournant la meule de dérision. Agneau perdu, nous avancions, sans bien sentir la douce pomme qui prenait feu sur nos épaules. Corolle où tremble, empli d'arômes, le fin pollen de la présence. Quand sur le chaume surgit l'étoile, le soir tendit aussi sur l'âme deux mains de cuivre, deux mains de sang. C'est un murmure bientôt qui gagne, comme la brise poussant la flamme, filant sa course parmi les palmes, balayant l'ombre sous les buissons. Aux mains creuses ombres allongées, le souffle apporte ses réponses. Les vignes grimpent jusqu'au ciel, les eaux inoncent le désert, dansent les cèdres sur les parvis. Au cœur de pierre, des cœurs de chair, battent les murs et les tombeaux, ardente sève, sueur des eaux. Jamais couchant ne fut plus rouge sous sa tunique couleur de terre. La brèche s'ouvre quant aux lucarnes, le soir allume l'or et le sang. Le pain rompu de ses mains blanches, ô vive empreinte, la tombe est vide. De l'or déborde de la blessure au flanc du temps. Une lueur troue la muraille. Le reconnaître et puis le perdre. Sa voix résonne si proche encore. Ne plus le voir. Saisir un peu du feu de joie qu'il vint nous tendre. Orphée, auberge d'humilité, tu accueillis le voyageur. Tu fis le nid de l'invisible, l'âtre secret de la merveille. Nuit de Saoul, dont Saint-Paul, nuit de Saint-Paul, nuit de Saoul. Alors, il y a une citation de Saint-Paul, donc l'acte des apôtres. Ils l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Étienne. Visage que je chasse, tu bats toujours des ailes devant moi, tu fixes tes grands yeux d'effraie sur ma mémoire. Visage aux yeux d'enfant, ô beau lys arraché, tu tournes sans répit, papillon de ténèbres. Ses deux mains battaient, colombes affolées devant son visage. J'ai vu leurs ailes arrachées, saigner dans l'air, à nu. Je n'ai pas retenu la main ni le caillou. Sous les remparts, l'air était rouge, avec la terre qu'ils arrosaient. Je n'ai pas avancé leurs habits à mes pieds. J'ai traîné pour entrer, rêvé à cet iris tordu dans les nuées à la tombée du jour. Je revois ses épaules, deux fruits d'or au soleil. Plus bas, le sable brun, criblé de sorbes rouges. L'osier tendre fendu de son corps sans épouse et ses yeux qui cherchaient, toujours de mon côté, ses yeux qui appelaient. L'enfant vise le lézard sur les pierres du muret. L'un l'autre y se fascine. Le lierre fait noircir ses graines au goût de mort. Soudain, l'enfant s'écroule au pied du même mur. La ronce de son cri creuse une marque rouge. Il pousse de l'épaule la porte des ténèbres. Elle a cédé, voilà, leurs galops et leurs cris. Des hommes rassemblés dans les fossés, les cours, des pierres qui entament les corps tassés ensemble, dans les touffeurs d'été, la chair des orties rouges. Je lave mes sandales, je vais les bras ballants, le soir par les ruelles, mais j'attends pour entrer le manteau de poussière. Quand les bergers se hâtent, les forêts à leurs trousses, avec la nuit qui vient, une serpe glacée sous sa robe trop courte. Une neige de cendres descendait sur mon cœur. Dans la clarté d'hiver, aux ailes de pénombre, le galop des troupeaux comme un tambour de guerre. Pourtant, un cri lâché m'attendait sous un porche. Je n'avais pas compris que déjà tu parlais. Quand il écrit que déjà tu parlais, tu, c'est avec un T majuscule, hein, il s'agit là du créateur. Et puis, il cite toujours l'acte des apôtres. Saoul se releva de terre, mais bien plus qu'il ouvrit les yeux, il ne voyait plus. Les chemins emmêlés vont rentrer au bercail. Déjà se clouent les portes. Le jour est bu par son étoupe dans les creux du verger, épargné par la faux. Bientôt, l'autre pays sortira des cachettes, des lucarnes éblouies par un grand soleil noir. Je les entends qui marchent, leurs chars et leurs chevaux dans la fièvre et la poudre. Moi, je garde la chambre, blotti dans ses draps d'ombre, un frêle oiseau de vent posé dans l'embrasure. La ville, bientôt, ne sera plus qu'un pâle lambeau de poussière sous une arche. Le retour des étoiles, je le devine, à ses souffles brefs sur ma peau, c'est le chant du grillon sous les marches, l'air du rosier contre le mur, la nuit, la longue nuit, aux doigts tachés de mûre. Je veux rester à l'écoute sur cette paille de ténèbres. J'ai chaud, comme l'agneau sauvé de la tempête. Le berger près de moi connaît la longue route. J'ai le flanc de ma mère qui bat contre mon cœur. Gérard Beauchollier, Nuit, Poésie, aux éditions Ad Solem. D'envoyer des éditions sur une poésie de la spiritualité. Et puis, Jeanne Modlinger, M-O-D-L-I-N-G-E-R, Jeanine Modlinger. Alors, Jeanine Modlinger, elle a longtemps enseigné à Paris. Des extraits de ses carnets ont paru dans la revue Arpa, tenue par Gérard Beauchollier. Et son premier recueil, Éblouissement, a paru toujours aux éditions Ad Solem. Alors, la parole parle dans le poème, dans la prière aussi. Il faudrait se la représenter par cette image qu'emploie Jeanine Modlinger pour évoquer ce geste vers l'autre. la parole comme des mains du silence. Tel l'oiseau qui fulgure, tel le regard de l'aimé, quelque chose de ténu et d'insistant nous annonce la présence. Après éblouissement, beauté du presque rien, recueille ces éclairs de la présence perçus dans un instant, une rencontre, un visage, un paysage, presque rien. C'est ainsi que nous découvrons le passage de l'autre, dans l'écart de la distance que la parole cherche à attraper, un peu comme Maurice Blanchot, Jeanine Modlinger invite son lecteur à faire ce pas au-delà du nom donné, jusqu'à cet état que l'on appelle prière, pour que, dans les mains du silence, la parole vienne se poser. Elle s'approche, c'est comme si elle connaissait ce geste depuis toujours. Jeanine Modlinger, Beauté du presque rien, poésie, c'est un recueil de 80 pages qui coûte toujours 19 euros, ces éditions Ad Solem. Alors, il y a une citation de Franz Kafka. L'art est comme une prière, une main tendue contre l'absurdité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Un seul ciel nous éclaire, celui que l'on regarde après avoir traversé l'ombre. C'est alors que l'on se réjouit du presque rien. On reçoit le monde dans l'éblouissement. Rembrandt. Depuis toujours à mes côtés, ses yeux fixant la finitude. Rembrandt. Sans relâche, attelé à la plus haute tâche. D'année en année, son visage sur la toile fixant l'immensité ou bien le gouffre, son visage de lumière et d'ombre. Un sourire m'habite, son voile léger me recouvre, accompagne mes pas, m'éloigne parfois du gouffre. Un sourire, ma seule armure. Terre clibée, criblée d'ombre, d'humains jetés dans l'effroi, et cependant vouée à rassembler la lumière. Revenu là, parmi ces arbres dressés sur la pierre, ma seule ardeur pour capter l'éclair, revenu là, poser mes pas dans la présence. Des éclats de neige diffusent la joie. Sommes-nous nés pour cela? Pour ce chant très simple, pour cette transparence offerte? Je continue. J'avance dans le jour, dans l'éclosion, la roche là-haut repose dans l'éclat. D'où vient que cette simplicité nous comble? L'invisible, comme une prière approchée. Ce sont des sables murmurants, allongés entre ciel et mer. C'est le monde grand ouvert, c'est une phosphorescence humble et pauvre, un dieu peut-être, caché entre ces sables, saurait me dire d'où vient la joie, devenue folle, à force de ne pouvoir se dire On s'étreint à parcourir ces espaces d'où viendrait un jour le mot juste. Joie ailée, murmurante, joie comme des larmes, joie comme une eau qui lave, espiègle, rapide, glissant vive entre les coins du corps, seulement cela peut-être, balbutier. Visage, herbes et roches, sable, fleurs vives ou séchées, soleil fléchissant dans le rouge du soir, chair d'amour, lieu aimanté à l'infini. L'invisible miroite se voile et se dévoile, se fait caresse, pastel ailé de brumes roses au matin sur le blanc des cimes. Mais la matière, paroi de roche dans son évidence abrupte. Mais la montagne, elle aussi, est agenouillée dans le mystère. Et c'est toujours le même tremblement. Empoigné par le deuil, déployé par la joie, est-ce pour cela que je cherche la source? Un brin d'herbe venu de source suffit à ma joie. Que tout soit louange. Et il y a une citation de la poétesse allemande d'Elie Sachs. Quel miracle sur terre, chaque pas un miracle. S'ouvrir, se donner au monde, porter l'éclat de ferveur jaillie, devenir comme la mer, nudité fluide, transparente, généreuse. Nous avons goûté à tant de suc, rendu peut-être au monde une part de sa lumière. La mer émeraude m'enlève mes habits d'apparat. Je suis alors vêtu de la seule lumière, palme ployée par le vent, sable blanc, écume. Il faut croire que, lorsque tout se défait, quelque chose demeure de nos bouches incendiées. Nul ne sait la douleur de l'autre. Seul, celui qui la porte connaît sa brûlure. À regarder tout le jour la nudité du monde, une lueur viendra-t-elle m'habiter? Telle une visitation silencieuse. Les mots du poème marchent silencieuses pour advenir au monde. Tu me tends des coquillages, les yeux emplis d'avenir, je regarde ta moisson pliée en ta joie. Quelques rayures tendues de nuages suffisent à ma joie. À s'éblouir ainsi, à capter le moindre indice, et cependant elle demeure intacte, la morsure de la douleur. Beauté du presque rien. En exergue, cette citation du Deutéronome, tu choisiras la vie. Il faut se laisser faire, se laisser ployer par le vent, être souple comme la liane, dresser haut, tels ces arbres millénaires. Il suffit de cela, un trait de lumière capté par l'océan, l'embrasement des arbres dans le feu du vent. beauté du presque rien, une clarté entre deux battements de cils, une oasis de joie transparente. Entends-tu ce cri ? C'est la beauté d'un oiseau devenu lumière. Je tremble d'être venu là, dans l'été de ma vie, tout jeune et âgé, lumineuse d'être lumière dans l'ascension du jour. Tu es là, paumes ouvertes, mon regard sourit de te voir à la même source. L'oiseau appelle de feu et de joie comme dans un jour unique. Nous avons le langage de ceux qui sont descendus dans la nuit, nommer le jour, le saluer, le prier. Jeanine Modlinger, beauté du presque rien. Donc nous avons le langage de ceux qui sont descendus dans la nuit. Il nous faut nommer le jour, le saluer, le prier. C'est aussi la vocation du poète qu'elle définit. Donc tout ce que j'ai lu de ces trois recueils sont des publications, des éditions Ad Solem, Ad Solem édition, que je vous recommande à voir et à vous procurer donc ces livres, mais également peut-être à regarder leur site sur internet. Voilà, donc nous rendrons compte. Donc vous avez compris, il s'agit là d'une poésie, de la spiritualité, poésie de très haut vol, dont nous aurons le plaisir de vous parler pour chaque nouvelle parution. Et puis dans le temps qui nous reste, je voudrais peut-être revenir à une publication qui m'est chère, vous le savez, une revue, ce sont toutes chères bien sûr, mais enfin, en particulier c'est comme Encre Vive. C'est Diérèse comme nouveau délit. Diérèse, la revue Diérèse. Alors, la revue Diérèse, j'ai parlé un peu brièvement de ce numéro 68, où il y a Pierre Desnaux qui parle de Jean Malrieux. Et je voudrais revenir peut-être aussi parce que Jean Malrieux, c'était un poète solaire, donc il y a aussi cette spiritualité très très forte dans la poésie de Jean Malrieux. Et voici ce que en dit Pierre Desnaux dans ce numéro, numéro 68 de cette excellente revue, donc Diérèse, revue que vous pouvez vous procurer en écrivant à Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 330, Ozoir-la-Ferrière. L'abonnement annuel est de 45 euros et le numéro est de 15 euros. Chaque numéro, vous pouvez vous procurer ce numéro 68 à la même adresse, coûtera 15 euros. Jean Malrieux, c'était le beau temps des lettres. Alors voici ce que dit Pierre Desnaux. La poésie pour Jean Malrieux ne pouvait surgir que d'un appel irrésistible, intime, mais elle n'avait de sens que si elle appelait au partage amical. Et là on retrouve toujours le parage de la convivencia. Jeune, isolé en province, n'ayant guère publié, Jean Malrieux s'était adressé à quelques-uns de ses aînés qui tous lui avaient répondu, ou plutôt l'avaient accueilli avant la guerre, par exemple Max Jacob et Jean Cocteau. Après la guerre, Jean Tortel. Ça n'est toujours souvenu. Ce ne sont pas les livres qui le requéraient. Il en fit paraître assez peu. Il redoutait de s'y enfermer orgueilleusement. Il rêvait, disait-il à Jean-François Mathé, de ce livre dont parlait André Breton dans Nadja, battant comme une porte. Il leur préférait les revues et les lettres, puisqu'elles favorisent les rencontres, le dialogue. Les revues, auxquelles il collabora, sont innombrables. Il en fonda plusieurs, Actions poétiques, avec Gérald Neveu. Il faudra peut-être refaire une émission sur Gérald Neveu. Et Sud, notamment, innombrables aussi les lettres, pour la plupart encore inédites. celles que Jean-François Maté confie à Diérès, nous permettent de comprendre ce qui préoccupait Jean Malrieux entre 1972 et 1974. Il y est moins question de son œuvre que de Sud. L'aventure de la revue avait commencé 2 ans auparavant. En principe, elle aurait dû ne se consacrer qu'à la poésie, comme en témoignent les premières livraisons, mais très vite, il eut fallu proposer des numéros spéciaux, souvent préparés par des spécialistes, des travaux littéraires. Jean Malrieux le rappelle dans ses lettres, en n'hésitant pas à entrer dans le détail, son obsession constante, et cela jusqu'à sa mort, en 1976, comment aller contre l'indifférence générale dès qu'il s'agit de la poésie? Comment faire vivre la revue? Pour elle, il ne ménagera pas son énergie, mais quelles que soient ses activités, jamais il ne se ménageait. Cette correspondance, donc, qui est citée dans ce numéro de Diérès, le montre. Jean Malrieux se plaisait à fonder, à mettre en route. Il prit sur lui d'être un directeur assidu à sa tâche, attentif à tout ce qu'il recevait. Il était débordé, il s'en plaignait parfois. Il répondait cependant aussi précisément que possible, si du moins l'auteur qui le sollicitait avait son estime, sa confiance, ce qui, avec Jean-François Maté, fut le cas. Le poème auquel fait allusion la lettre du 11 juillet 1914 apparut en décembre dans le numéro 13 de Sud, Sicile. En voici un bref passage. Le souffle passe dans les poumons, des oiseaux aussi absents, autour de moi les pierres, perdent pied dans leur poids, perdent comme une haleine leur clôture. Pour quelle raison Jean Malrieux l'avait-il apprécié au point de le soumettre au comité de rédaction? Il ne le dit pas. Mais nous savons comment il a réagi à des envois précédents. Il n'expliquait ni ses éloges ni ses réticences. Il n'avait rien d'un critique. Il s'exprimait en toute franchise. Une formule suffisait, qui mettait l'accent sur ce qui le touchait. 8 février 1912, il se contente de recopier 3 vers. « Je ne t'écris pas, j'essaie toutes les clés du souffle dans la serrure de la mort. » Il reconnaît un vrai poète, puisque l'art d'écrire est pour lui l'inséparable d'un art de vivre. C'était l'époque qu'il détestait, où l'on se regardait écrire. De même, le 21 mai 1974, après avoir lu « L'inhabitant », le premier livre de Jean-François Maté qui avait paru chez Rougerie, Jean Malrieux dira qu'il est beau. Sans commenter, aussitôt, il interroge « Quelle est cette blessure qui vous met en marge ?» L'homme et le poète ne font qu'un dans la même inquiétude, la même ardeur. En se tournant vers Jean Malrieux, Jean-François Maté ne s'adressait pas uniquement au rédacteur en chef. Il avait aimé le non-secret qui avait paru en 1968. Comment en avait-il parlé? Nous pouvons le deviner grâce à la mise au point que Jean Malrieux n'a pas marqué de fer de 6 mars 1972. Il y dissipe un malentendu tenace. Il s'irritait d'être considéré comme le poète du bonheur, alors que l'inspirait désormais ce qu'il appelait la joie noire. Ce qui sans doute n'était pas faux. Quand il écrivait Préface à l'amour et Hectares de soleil, se révèle caduc maintenant. Je respire mal, m'amenuise. Connaissant le but qui m'épouvante, j'approche. En n'étant rien, je serai tout. Et j'ai peur. Vient-il de dire justement dans le château cathare, c'est de l'ombre et de l'angoisse que la joie émane, intensément, fugitivement. Du reste, à la fin de cette lettre, Jean Malrieux cite Jean-François Maté lui-même, « Il est tard pour la joie. » Et ce vers est bien, entre eux, un signe de connivence. « Il est tard. » Jean Malrieux le disait volontiers durant ces années-là, il avait perdu tant d'amis, dont Gérald Neveu, qu'il évoquera le 11 juillet 1914, alors qu'il essayait une fois encore de sauver de l'oubli ces feuilles éparses où la vie avait brûlé. Il n'est pas trop tard pourtant. Il se trouve au milieu d'un été rayonnant. Sa saison préférée à peine de Tarn, la vallée des rois, celle des tombeaux, celle également des merveilles toujours possibles, pour qui sait les accueillir. Recevoir une lettre de Jean, c'était recevoir des nouvelles d'un monde où il fait un temps de poèmes. Voilà, ce texte de Pierre Desnoux. C'est un texte qui m'a beaucoup ému. Hein. Alors, il faut rappeler que le fils de Jean Malrieux, Pierre Malrieux, est toujours à Peine de Tarn. Je vous invite à aller voir cette Peine de Tarn. Hein. Vous pouvez faire le Saint-Antonin-Lambleval, Bruniquel, Peine de Tarn. Et là, il y a le musée que son fils Pierre Malrieux a consacré donc à Jean Malrieux. Jean Malrieux, avec Gaston Pell, notre plus grande figure ici, dans notre Occitanie, de la poésie. Et je vais finir dans les 2 minutes qui restent par toujours dans la spiritualité. Je voulais citer un poète irakien. Alors je vais citer Sayyab. Il est né en 1926 à Jaipur, c'est près de Bassora, là où était d'ailleurs Saddam. En Irak, donc, Bar Shaker As-Sayyab a fait ses études de littérature anglaise avant d'être employé à des postes subalternes dans plusieurs entreprises, puis dans l'administration. Il fut militant du Parti communiste et s'en est séparé progressivement pour se rapprocher des nationalistes arabes. Alors il est mort au Koweït en 1964, après une longue maladie. Il est l'auteur d'une dizaine de recueils, Sayyab, et il a aussi publié l'anthologie de la poésie mondiale contemporaine. Son œuvre est traduite dans la plupart des langues européennes. Et je voudrais finir sur ce texte donc, de Sayyab. Le Christ après la crucifixion. Quand ils m'ont déposé de la croix, j'ai entendu les vents en une longue plainte effleurant la palmeraie et les pas de plus en plus loin. C'est ainsi. Ni les blessures, ni la croix où ils m'ont cloué tout au long de ce crépuscule n'ont pu me tuer. J'ai prêté l'oreille. Le hurlement traversait la plaine entre la ville et moi, câble qui retiendrait le navire dans sa chute à l'abîme. Plainte, comme fil de lumière entre le matin et l'ombre, dans le ciel triste de l'hiver. Et voici que la ville, tout sens aboli, s'endort. Quand fleurissent la mûre et l'orange, quand Jaipur se déploie jusqu'aux limites de l'imaginaire, quand les herbes y verdissent, chantant son parfum, et le soleil qui l'en nourrit de leur éclat, quand l'ombre même y devient verte, une tiédeur touche mon cœur et mon sang coule en cette terre fraîche. Mon cœur est soleil lorsqu'il s'ébroue de lumière. Mon cœur est terre frémissant de blé, de fleurs, d'eau claire. Mon cœur est l'eau, mon cœur est l'épi, mort et ressuscité, mort vivant en ceux qui le mangent. Dans la pâte qui s'arrondit et s'enfle comme jeune saint, je suis mort par le feu. De mon argile j'ai brûlé les ténèbres, et le Dieu pour toujours reste. J'étais au commencement, au commencement était le pauvre. Je suis mort pour qu'on mange le pain en mon nom, pour qu'on me sème en la saison. Ah, que de vie vivrai-je en chaque fosse. Me voici devenu l'avenir, semence, génération d'entre les hommes. À chaque cœur mon sang, comme une goutte, ou, d'une goutte, une parcelle. Tel je suis revenu. Et Judas a blémi, car j'étais son secret. Il était ombre, issu de moi, et déjà noir, pensée qui eût pris forme et corps en lui, et privé d'âme. Et dans l'eau de ses yeux, il a craint que la mort n'étale son scandale. Ses yeux sont une pierre, il y cache sa tombe aux hommes. Il a craint cette chaleur, cet impossible, et s'est trahi. Est-ce toi? Ou mon ombre devenue blanche et qui se disperse en lumière? Est-ce toi, venant du monde des morts? Mais la mort ne vient pas deux fois. Ainsi disaient nos pères, ainsi nous ont-ils appris. N'était-ce que mensonge? À mon apparition, il se disait cela. Un seul de ses regards le disait. Un pas qui court, un pas, un pas. Sous le choc de ses pas, la tombe croule presque. Sont-ils venus, eux? Et qui serait-ce d'autre? Un pas, un pas, un pas. J'ai rejeté les rocs sur ma poitrine. Ne m'a-t-on pas crucifié hier? Me voici dans la tombe. Qu'ils viennent. Je suis dans la tombe. Qui saurait que moi? Qui saurait? Et le compagnon de Judas, va-t-on croire à leur racontard? Me voici nu dans la tombe, enténébré. Hier, je me refermais comme une pensée, comme un bourgeon. Sous mon linceul de neige se gonflait une fleur de sang, et j'étais comme l'ombre entre les ténèbres et le jour. Mais ensuite, de mon âme explosée, j'ai tiré des trésors, je les dépouillais comme autant de fruits. Du jour où mes poches découpées sont devenues l'ange et mes manches manteaux, du jour où ma chair a réchauffé les os des enfants, du jour où ma blessure, mise à nu, a pansé une autre blessure. Le mur est tombé entre le Dieu et moi. Les soldats ont surpris jusqu'à mes blessures, jusqu'au battement de mon cœur. Tout ce qui n'était pas la mort, fût-ce en un cimetière, ils l'ont surpris, comme un vol d'oiseaux affamés surprendrait le palmier en fruits dans un village désert. Les yeux des fusils dévorent mon chemin, grands ouverts. Le feu y rêve de ma croix, mais ils sont de fer et de feu, les yeux de mon peuple, sont lumière de ciel, de souvenir, d'amour, qui prennent sur eux mon fardeau, et ma croix devient source. Ah, comme est peu de choses, cette mort, ma mort, et que de choses elle rassemble. Quand ils m'ont cloué, quand j'ai jeté les yeux sur la ville, à peine ai-je reconnu la plaine, le mur, le cimetière. Il y avait à portée de regard une chose, pareille à la forêt en fleurs, il y avait partout une croix, avec une mère en détresse. Saint est le Seigneur. Voici que la ville enfante. Sayab, extrait de Le Chant de la pluie. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée. à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine.